Donc, Philippe Adam, c'est un. Je me suis dit qu'il avait beaucoup de professions. Il est missionnaire, pasteur, formateur, randonneur, professeur. Enfin, tout qui finit par heure. Beaucoup de qualités. Apprentisseur, c'est vrai, apprentisseur, écouteur, écoutant. Voilà, vraiment, on est au bénéfice de sa richesse. Et on est au bénéfice du jour aussi où tu as dit oui, Jésus, je veux te suivre et te servir. Et on te remercie parce que sinon tu ne serais pas là et on ne serait pas au bénéfice de ça. Merci vraiment, Philippe, d'être venu. Donc, pour rappel, Philippe était venu le premier week-end de rentrée à faire à Gagnères, quand on avait fait notre rencontre à Gagnères, et nous avait déjà beaucoup bénis. Donc, il est venu pour rencontrer le conseil, notamment vendredi soir et samedi matin, et puis samedi après-midi, les responsables de commission. Et rencontrer le conseil pour nous aider à comprendre les qualités de chacun et comment on peut fonctionner mieux, de manière plus efficace, en prenant conscience au sein de notre conseil des qualités que Dieu nous a données. Et voilà, je trouve que c'est intéressant, vraiment, ça nous a beaucoup enrichi, beaucoup amené de pouvoir être peut-être plus libre hein, d'exprimer les dons que Dieu nous a donnés. Donc merci vraiment Philippe des répercussions que ça a à voir en plus de ton message de ce matin. Voilà. Tu viens quand tu veux. Voilà. Merci.
Désolé, excuse-moi.
Non, tout va bien.
Quelle joie d'être avec vous ce matin et d'avoir le privilège de partager la parole de Dieu. Et de pouvoir partager ce que je pense que Dieu est en train de vous dire aujourd'hui. Merci pour ceux qui ont donné leurs pensées, leurs paroles de connaissance, leurs paroles de sagesse. Parce que Dieu ne parle pas que d'une seule manière le dimanche matin. Il parle au travers de la louange, il parle au travers de l'Église, il parle au travers de sa parole. Et on est reconnaissant pour cet esprit qui est en train de travailler au milieu de vous. Au milieu de nous. Et ce matin, vous vous souvenez, pour le week-end, j'ai parlé de être son disciple. D'accord? Eh bien, ce matin, c'est être son disciple au travail. Ah! Alors, être son disciple au travail, ça commence au moment où on dit, Seigneur, tu es le Seigneur de tout ce que je fais, même cette partie de la semaine, la plus grosse partie de ma semaine que je passe au travail. Tu es le Seigneur là aussi. Je veux être ton disciple au travail. Et lorsque nous sommes au travail, parfois nous rendons cet engagement public. Nous le disons à nos amis. Nous partageons ce que nous vivons parfois au culte, qu'il soit chrétien ou non. Mais être son disciple au travail est un engagement conscient, délibéré et quotidien. Et ça, j'aimerais bien vous le dire, c'est délibéré, c'est quotidien, c'est quelque chose auquel on revient tous les jours. Un de mes amis est un artiste de mime. Et lui, il cite quelqu'un d'autre qui a dit « Parlez tout le temps de Jésus, même si vous avez besoin d'utiliser les mots. » Être son disciple au travail, c'est difficile. Je vous l'accorde, je le dis. Et cette manière de vivre comporte des sacrifices, comporte des luttes. Mais vous savez ce qu'il apporte? Il apporte un niveau de satisfaction, elle donne un sens à notre vie qui est extraordinaire. Parce que lorsque vous allez au travail, vous n'allez pas au travail dans votre nom. Vous allez au travail. Vous êtes en mission pour Dieu au travail. Vous l'avez compris, ça ? Vous êtes en mission pour Dieu au travail. Par exemple, Paul, l'apôtre Paul nous dit, nous faisons donc fonction d'ambassadeur au nom de Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes, au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Mais j'aimerais faire trois points. Le premier, c'est être à l'écoute de la parole, même au travail. Dieu veut nous parler de notre vie au travail et il veut nous parler au travers de sa parole écrite aussi. Donc, est-ce que tu peux mettre le premier slide, s'il te plaît ? Alors, Paul écrit dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Et alors, j'ai mis sur le tableau exprès parce que c'est parole vivante. Si vous lisez dans la Bible du semeur, vous serez un peu perdu. Mais lisez bien celle-là, ça apporte un peu plus de sens aux mots. Car toute écriture a été rédigé sous l'inspiration de Dieu. C'est pourquoi elle est utile pour nous pour enseigner la vérité et nous en persuader, pour apprendre à nous connaître et pour nous convaincre de péché, pour réfuter les erreurs et rectifier nos pensées. Est-ce que nous avons besoin d'avoir nos pensées rectifiées parfois ? Moi, je lève les mains le premier. On a besoin. Elle nous aide à réformer notre conduite et nous rend capable de mener une vie juste et disciplinée, conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu, la femme de Dieu, se trouve parfaitement préparé et équipé. Vous avez vu ça ? Parfaitement préparé et équipé. Pourquoi ? Il est prêt ou elle est prête pour accomplir toute bonne œuvre. Quand nous allons au travail, frères et sœurs, c'est comme ça qu'on va au travail. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Je vous encouragerai cette semaine à revenir sur ces deux versets et à méditer sur ces deux versets, sur ces verbes que Paul, que la traduction parole vivante a soulignés. Enseigner. Elle nous enseigne. Persuader, elle nous persuade de ce qui est vrai. Elle nous apprend à nous connaître. Elle nous révèle qui nous sommes. Elle nous convainc, elle réfute et elle rectifie nos pensées. Réformer. Nous sommes des hommes et des femmes qui ont besoin d'être réformés tous les jours. La parole de Dieu nous aide à rester dans cette être réformés tous les jours pour suivre Jésus. Mener une vie juste et équilibrée. Dieu est à l'œuvre en nous pour nous transformer et faire de nous des disciples dans le lieu du travail. Mais on peut se poser une question. Jésus, est-ce qu'il connaissait le monde du travail ? Il y a seulement deux versets dans la Bible où cela ressort un petit peu. Vous vous souvenez quand Jésus est retourné à Nazareth, au début de son ministère, il est retourné à Nazareth pour voir sa famille et aussi pour partager dans la synagogue. Et il a lu ce passage d'Isaïe, et après la lecture, voici ce que les gens de Nazareth ont dit. N'est-ce pas le tecton? Le tecton. Vous voyez, qu'est-ce que c'est un tecton? Eh bien, c'est le mot en hébreu qui décrit ce que Jésus était. Et alors, il y a des érudits, des théologiens qui ont recherché ce mot pour comprendre la signification de tecton dans le monde de Jésus, du premier siècle. Et en fait, c'est beaucoup plus qu'un charpentier. De ce temps-là, les charpentiers qui faisaient le bâtiment travaillaient la pierre, ils travaillaient la fer aussi. Ils étaient ferronniers, forgerons, et la pierre. Et on peut imaginer le tecton au premier siècle était celui qui construisait les bâtiments, les maisons. Tous ces bâtiments construits par les Romains en Israël, c'est qui les a construits? C'était des tectones juifs, c'était des hommes et des hommes comme Jésus qui ont construit ces endroits. Et les hommes et les femmes de Nazareth ont dit, n'est-ce pas le tecton, n'est-ce pas le charpentier de chez nous? Est-ce que Jésus comprend le monde des affaires? Moi, je crois que oui. En tant que jeune adulte, avec son père, il a appris à aller au travail tous les jours, même s'il faisait beau, même s'il pleuvait, même s'il y avait chaud, même s'il y avait froid. Il a appris à travailler aussi avec des clients, parfois qui payaient, parfois qui ne payaient pas. Et puis, quand son père Joseph, son père terrestre, est décédé, en tant que fils aîné, qu'est-ce que Jésus a fait? Il est devenu le chef de l'entreprise familiale. Est-ce qu'il connaît le monde du travail, Jésus? Ben oui, il le connaît. Et je suis émerveillé parce que ce que nous voyons dans les évangiles quand Jésus commence à prêcher, c'est un fin observateur de la vie. Parce que Jésus nous parle de la sagesse des oiseaux, de la sagesse de la beauté d'une fleur, ou du temps qu'il fait. Et je crois que son expérience professionnelle en tant que constructeur du bâtiment de ce temps-là a aussi formé sa manière qu'il a enseigné les gens. Jésus, il a parlé au travers des paraboles, n'est-ce pas? Et les paraboles, c'était des choses que les gens comprenaient. Et Jésus parlait dans ses paraboles d'une manière très pratique. Il prenait des principes spirituels du ciel, il les appliquait au monde de tous les jours et au monde du travail. Sur 41 paraboles que Jésus a enseignées, il y en a 32 où l'histoire utilisée par Jésus est en relation avec le travail. C'est quand même quelque chose. On peut penser que Jésus connaissait le travail. Il connaît notre monde à nous quand on va au travail. Et il a donné des exemples de tous les domaines du travail, que ce soit du gouvernement, que ce soit même des soldats, des managers même, des gérants. Jésus s'est servi du travail comme un lieu de paraboles pour nous enseigner comment vivre le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, on peut continuer et suivre ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, avant de regarder la deuxième passage de la Bible, Paul nous donne une phrase percutante. Dans tout ce que vous pouvez faire ou dire, dans tout ce que vous pouvez faire ou dire. Maintenant, regardons ce passage complet pour voir à quoi Paul se réfère. Le deuxième, s'il te plaît. Alors, on lit dans Colossiens, donc, au verset chapitre 3, et on lit les versets 5 à 17. Alors, je sais que c'est un peu long pour un message, mais restez avec moi. Et vous-même aussi, vous commettiez ces péchés autrefois lorsqu'il faisait votre vie. Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela. Colère, irritation, méchanceté, insulte ou propos grossiers qui sortaient de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements, et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être à l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance. Pour ce qui le concerne, il n'y a plus de différence entre juifs, non-juifs, circoncis, incirconcis, étrangers, barbares, esclaves, hommes libres. Il n'y a plus que Christ, lui qui est tout et en tous. Verset 12. Ainsi, puisque... Alors, Paul se sert de deux mots là pour nous montrer ce qu'il disait. Il va montrer les conséquences de ce qu'il disait. Ainsi, une fois une conséquence, et ensuite il dit « puisque », deux fois. Il y a deux mots là. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour faire partie du peuple saint et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions. Car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse. Qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres. Ou pour chanter à Dieu dans tout votre cœur des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Et on revient au verset que j'ai cité au début. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus, en remerciant le Père par lui. Je vais vous demander de prendre ce passage et de l'appliquer à votre monde du travail, là où vous travaillez. Imaginez l'impact de ce que Paul nous dit ici, dans le monde du travail, avec des chrétiens qui sont tout autour de vous. Imaginez l'impact sur, par exemple, votre travail d'équipe avec les autres. Vous imaginez le travail d'équipe, on va revenir à quelques-uns de ces verbes, mais le travail d'équipe avec ce pardon, avec cette grâce, avec cette vérité. Vous savez quel serait l'impact? Imaginez l'impact sur les bénéficiaires de votre travail, c'est-à-dire vos clients. Ce qu'ils reçoivent de vous, c'est quelque chose qui est excellent. Mais maintenant, on va relire ce passage à partir du verset 12. Et ça commence avec « revêtez-vous ». D'accord ? « Revêtez-vous ». Elle vous inspire une pleine sagesse. Une pleine sagesse. Un jour, j'étais à Kaboul et je partais au travail avec mes collègues. Et de ce temps-là, nous travaillions dans les hôpitaux militaires d'Afghanistan. Et dans notre voiture, en chemin, j'ai eu cette pensée, ne va pas à l'hôpital aujourd'hui. Retourne au bureau et travaillez sur l'administratif que vous avez besoin de faire pour le projet. Nous étions un projet financé par un gouvernement, donc on avait beaucoup de comptes à rendre avec des millions de dollars. Donc l'administration était importante. Donc on est retourné au bureau au lieu d'aller à l'hôpital ce jour-là. À 11h du matin, je reçois un coup de fil du député Surgeon General, c'est-à-dire le plus haut gradé de l'armée afghane dans le monde médical, qui me téléphone et me dit « Philippe, vous n'êtes pas à l'hôpital là ?» Je dis « Non, on n'est pas à l'hôpital. Pourquoi ?» Pourquoi Atik ? C'est son nom. Je dis « Écoute, on vient d'être attaqué, le Taliban a attaqué, et on vient de perdre 20 jeunes qui ont été tués par eux. » Et ce que j'ai réalisé, c'est que ces jeunes-là, nous aurions été en train de les former. Pleine sagesse. Vous savez, Dieu donne une sagesse extraordinaire pour le travail. Moi, je vous donne un exemple extrême. Mais des paroles de connaissance au travail, des paroles de discernement parfois au travail, discerner les intentions des gens parfois. Le Saint-Esprit est à l'œuvre là aussi, frères et sœurs. Alors, Paul dit bonté. Imaginez la bonté de Dieu au travail, qu'est-ce que ça fait aux gens qui sont autour de vous? La bienveillance. Dans le monde du travail, on parle beaucoup de la bienveillance aujourd'hui. N'est-ce pas? Si vous regardez toute la littérature et toutes les formations qu'on fait dans le monde des affaires, dans les sociétés, on parle de la bienveillance et tout ça. Mais vous savez, c'est pas de la bienveillance non intéressée. C'est de la bienveillance pour manipuler. Mais imaginez une bienveillance qui n'est pas là pour manipuler, mais qui est là pour donner le meilleur à l'autre. C'est ça la bienveillance que Dieu nous exhorte à donner. Et puis l'autre mot qu'il dit, Paul, c'est l'humilité. Imaginez l'humilité au travail. Quel impact ça a sur les hommes et les femmes qui vous côtoient? La douceur. Vous savez, c'est tout sauf doux parfois. Nous avons besoin d'être contre-culturels, mes amis, d'aller contre la culture prévalente qui se trouve dans notre société. Au lieu d'exprimer dureté, douceur. Et puis, la patience. Combien de fois vos employés se sont plantés? N'est-ce pas? On fait des erreurs. Vous en avez fait aussi. Moi aussi, j'en ai fait. Et exercer la patience. Puis là, Paul, il déborde, il dit « supportez-vous les uns les autres ». Imaginez, supportez-vous les uns les autres au travail. Qu'est-ce que ça a créé dans les relations entre les employés? Supportez-vous les uns les autres. Mes amis, c'est vivre le royaume de Dieu au travail, ça. Vous savez que c'est ce que Dieu veut faire, hein? Il veut que vous soyez le représentant de son royaume dans le travail et vous apporter une présence qui apporte quelque chose qui fait les choses différemment. Et c'est à cause de ça qu'on peut supporter vous les uns les autres. Le pardon, Paul dit, le pardon. Il m'est arrivé plusieurs fois dans le travail, en tant que missionnaire, j'ai eu le privilège de travailler pour différents organismes, des directeurs d'hôpital et d'autres choses comme ça. Donc j'ai travaillé comme vous. Nous avons travaillé. Et au milieu, parfois, du travail, nous sommes ceux qui vont apporter la réconciliation entre deux personnes qui ne sont pas d'accord. Est-ce que vous voyez la puissance qu'en vous représentant Jésus-Christ, vous apportez la réconciliation entre deux personnes qui s'étaient chamaillées au travail? Imaginez l'impact de ça. Mais c'est ça, vivre le royaume de Dieu au travail. L'amour, il y a quelqu'un qui parle beaucoup sur le leadership, s'appelle John Maxwell. Vous savez ce qu'il dit? Aimez les gens que vous conduisez. Aimez les gens qui sont votre responsabilité au travail. Aimez-les. Et puis, la paix. Imaginez un lieu de travail où il y a la paix. C'est autre que toutes les autres sociétés autour. La paix. Et alors, et comment nous pouvons faire cela? Bonne question, n'est-ce pas? Paul nous dit au verset 16 que la parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres. Alors, rapidement, pour le comment faire, je pense qu'on a besoin de se souvenir en tant que disciples que nous sommes des apprenants à vie. Un disciple est toujours en train d'apprendre. Donc au travail, nous sommes des apprenants à vie. Nous sommes en train d'apprendre à servir Dieu au travail. Nous sommes en train d'apprendre à mieux travailler tous les jours. Quand le travail est médiocre, est-ce que ça fait honneur à notre Seigneur? Pas du tout. Quand le travail n'est pas efficace non plus. Sans enthousiasme. Ben, je vais au travail, tu sais. Oh là là. Oh là là. Ah, oh, mais vendredi arrive. Mais vous vivez comme ça ou non? Dieu vous a créé pour bosser. Dieu vous a créé pour travailler. Vous savez, le travail, ça fait pas partie de la chute de l'homme. Adam travaillait dans le jardin avant que la chute ne vienne. Dieu lui a donné un jardin. Il a dit, occupe-toi du jardin. Il y a des agriculteurs ici? Ou il y en a qui ont des jardins ici, j'imagine. Est-ce que c'est du travail, la terre? Ben oui. Avant que l'homme ne soit séparé de Dieu au jardin, il travaillait. Un autre aspect, lisez un livre sur Dieu et mon travail. Par exemple, le titre que je vous propose, c'est Dieu et mon travail, c'est de Tim Keller. Commencez à lire, apprenez. Et puis, cherchez des perspectives chrétiennes sur votre travail. Par exemple, qu'est-ce que Dieu a à dire pour le monde des finances? Qu'est-ce que Dieu a à dire pour le monde de l'éducation, pour la musique? Pour le travail social, pour l'industrie. Qu'est-ce que Dieu a à dire au milieu de cela? Je vous encouragerai à aller online. Si vous lisez un petit peu d'anglais, vous allez trouver des ressources incroyables sur Dieu et le travail. Et comment vous pouvez le vivre d'une manière beaucoup plus joyeuse que vous ne le vivez aujourd'hui. Si vous passez votre journée à penser, votre semaine à penser à vendredi, vous avez un problème. Ah, c'est vrai. Prenez de la joie dans ce que vous faites. Prenez de la joie. Parce que vous glorifiez Dieu comme ça, en prenant cette joie. Et puis, un dernier conseil, trouvez des partenaires. Trouvez des partenaires de travail où vous pouvez vous retrouver une fois par semaine ou tous les 15 jours pour parler du travail et dire « Comment tu le vis, toi ?»« Écoute, il y a ça qui m'a découragé. » Et l'autre va dire « Mais moi, je suis en train de vivre quelque chose de génial. » Ils vont s'encourager les uns les autres. Vous allez prier ensemble. Vous allez repartir regonflé, fortifié pour travailler pour le Seigneur. Mais trouvez des partenaires pour vous retrouver dans la semaine, pour parler du travail ensemble. J'ai un ami médecin, il n'a pas trouvé de chrétiens baptistes réformés, mais il a trouvé des chrétiens catholiques. Il a dit, c'était génial, on se retrouvait toutes les semaines et on parlait du travail ensemble. Et on parlait de comment on vit Jésus au travail ensemble. Et on s'est encouragé. Je dirais que c'est essentiel d'avoir des partenaires. Lorsque j'étais au Niger, j'étais directeur de l'hôpital chrétien de Niamey et j'ai eu le privilège d'avoir deux compagnons, le directeur de la CIM et le directeur de Samaritan's Purse. On s'est retrouvés toutes les semaines, le mardi midi, et on mangeait ensemble. Ils venaient à l'hôpital, j'avais la chance d'avoir une cafette, donc le repas était fait, c'était facile dans mon bureau, et on parlait entre nous du travail, et on s'encourageait, on se poussait vers l'excellence, et on est devenus des amis. Et ça m'a fait tellement de bien. Quand l'un de nous allait mal, il y en avait deux autres qui étaient là pour l'aider et l'encourager. Il y a des moments comme ça. Alors, pour terminer, la dernière slide, s'il te plaît. Et là, je vais vous demander de vous lever, parce qu'on va prier ensemble. Ah oui, il faut se lever. Cet engagement que vous allez prendre vis-à-vis de Dieu, vous ne pouvez pas le faire assis. Vous voyez pourquoi vous êtes debout? Oui! Parce que les retraités, ils continuent à travailler, n'est-ce pas? Le travail est un peu différent, c'est tout. Il est partout, le travail. Ça n'arrête pas. Moi, je t'ai vu travailler cette semaine. Ben oui, tu étais au travail, là, cette semaine. On va lire cette prière et la prier ensemble. Alors, c'est difficile de fermer les yeux et de prier comme ça, mais on va le lire ensemble. Mais je vous encouragerai à lire cela. Et c'est laisser le Saint-Esprit vous parler. Et on va le lire bien lentement pour que les paroles puissent rentrer en nous. Établis l'œuvre de mes mains, Père Céleste. J'attends à haute voix. Oui, à haute voix. J'attends votre réponse. Pas la réponse, vous priez avec moi en même temps, d'accord ? Tout le monde, c'est un concert de paroles. Quoi? Faut démarrer. Établis l'œuvre de mes mains, Père Céleste. Dans mon lieu de travail, j'apporte ta présence avec moi. Je déclare ta paix, ta grâce, ta miséricorde et ton ordre parfait dans l'atmosphère de mon lieu de travail. Je reconnais que tu es Seigneur sur tout ce qui se dit, pensé, décidé et accompli ce jour. Seigneur, je te remercie pour les dons et les conséquences dont tu m'as béni, que tu m'as béni. Conséquences, compétences, excusez-moi. Je m'engage à les utiliser de manière responsable en ton honneur. Donne-moi une source fraîche de force pour faire mon travail. Mes talents, Seigneur, je ne les prends pas à la légère, mais je m'engage à les utiliser de manière responsable, efficace et à ta gloire. Donne-moi une nouvelle réserve de vérité et de beauté dans laquelle je peux puiser pour effectuer mon travail aujourd'hui. Bénis ma créativité, mes idées, mon énergie, afin que même ma plus petite tâche puisse t'honorer. Seigneur, quand je suis confus, guide-moi. Quand je suis fatigué, donne-moi de l'énergie. Quand je suis épuisé, infuse la lumière de Saint-Esprit. Que le travail que je fais et la façon dont je le fais apporte l'espoir, la joie à tous ceux que je rencontre aujourd'hui. Et Seigneur, même dans les moments les plus stressants de cette journée, que je me repose en toi. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Que Dieu vous bénisse.